Est-ce que le Seigneur a le droit de renverser des choses dans notre vie? Amen. Et il y a des choses, des paroles fortes de la part du Seigneur qu'on doit saisir, qu'on doit comprendre, non pas les limiter à ce qui est matériel, mais davantage à ce qui est spirituel. J'aimerais avec vous ce matin faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 1 et les versets 2. Matthieu, chapitre 24, versets 1 et versets 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire une remarque et lui faire remarquer la construction, mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Cette parole de la part du Seigneur ne s'est pas arrêtée aux oreilles des disciples qui s'étaient approchés, qui s'étaient... était venu vers le Seigneur en disant, « Seigneur, regarde le temple, il est beau, il est magnifique. » Et là, Jésus leur donne une parole et cette parole vient aussi dans les oreilles des religieux parce que je vous rappelle qu'un peu plus tard, on va lui reprocher ses mots, on va dire lui qui avait dit que, non ? Alors, bien évidemment, face à une construction comme celle qui était celle du temple, entendre une parole pareille, ça pouvait être ressenti comme une forme de malédiction. Comment est-il possible que Jésus puisse dire que le temple va être détruit, va être démoli, va être finalement réduit en poussière? Et certains ont considéré cela en disant, ben oui, il a dit que détruisez ce temple en 3 jours, je le reconstruirai. Ben attends, ça c'est de la folie. Hein. Moi j'aimerais trouver une entreprise qu'en 3 jours, il vous monte un temple. Non? Ça demande du temps. Non, ça demande de l'investissement. Mais là, le Seigneur va au-delà des mots. Alors, juste pour que nous puissions être au clair, pour ceux qui peut-être encore n'ont pas eu l'occasion de lire ces textes, savoir que le temple a été détruit et qu'il n'est pas resté pierre sur pierre. C'était une prophétie, celle que Jésus a donnée, qui s'est accomplie. Le temple a été détruit. D'ailleurs, à ce jour, en Israël, il n'y a pas de temple. Il y a un projet de reconstruction. On en a parlé encore vendredi au temps de partage biblique. Mais néanmoins, il faut savoir que la parole que Jésus avait donnée était vraie, était profonde, était aussi une révélation qui venait de la part de Dieu. Mais j'aimerais bien aussi qu'on puisse considérer que la parole du Seigneur ne s'arrête pas à la portée matérielle, mais qu'on prend aussi la partie spirituelle. Ésaïe 55, verset 8, dira « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Il y a un changement qu'on doit accepter, qu'on doit aussi vivre, qu'on doit aussi attendre dans notre cœur, que ce soit au niveau de nos pensées, mais que ce soit aussi au niveau des voix, les directions. Est-ce que nous sommes toujours les pilotes qui décident de la direction à prendre? Est-ce que nous sommes encore ceux qui décident de dire « moi j'ai la bonne pensée, je sais bien ce qu'il faut et je vais y aller dans ce sens-là » Tous ceux qui ont voulu interpréter les Écritures par le raisonnement et la philosophie humaine n'ont pas réussi à saisir le sens profond ainsi que la portée spirituelle de la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut permettre de comprendre Dieu. Seul le Saint-Esprit peut transformer le cœur de l'homme et le rendre sensible à la pensée de Dieu. Alors ce matin, puisque nous avons introduit ce temps par cette lecture, j'aimerais qu'on prenne juste quelques instants, qu'on incline nos têtes et on dit « Seigneur, par le Saint-Esprit, viens m'éclairer encore ce matin, de manière personnelle, Seigneur. Viens, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, tu as dit toi-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, et lorsque tu as dû aller accomplir ton œuvre, lorsque tu as mis ton comble à ton amour en donnant ta vie, Seigneur, tu n'as pas voulu nous laisser seuls, mais tu as voulu que le Père puisse nous envoyer le Consolateur. Celui qui doit nous permettre, Seigneur, de voir, Seigneur, ce que l'homme charnel ne peut pas voir, que nous puissions entendre ce que l'homme charnel ne peut pas entendre. Car seulement, Seigneur, lorsque nous devenons, Seigneur, avec toi un seul esprit, Seigneur, nous pouvons entendre, voir, comprendre ta volonté, Seigneur. Et nous avons besoin de cette transformation de nos vies. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur. On a besoin, Seigneur, de te laisser toute la place pour que, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit dégagé, mais ce qui est de toi, Seigneur, prenne la place qui lui revient. Seigneur, encore ce matin, nous te prions, viens encore, Seigneur. Seigneur, transformer nos vies, changer notre vision des choses, changer notre pensée. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous sentir honorés vraiment, Seigneur. Que ta main se pose sur nous, Seigneur. Seigneur, pour ceux qui vivent encore comme une forme de peur de devoir perdre ou renoncer à des choses, Seigneur, que, Seigneur, cette peur se transforme en joie de pouvoir renoncer à tout pour Christ. Seigneur, merci encore de la fidélité et de la bonté, Seigneur, qui est en toi. Et merci encore pour ta parole, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, nous puissions être à l'écoute. Et Seigneur, que nous puissions aussi la mettre en pratique. Amen. Amen. La pensée de Dieu est différente que la nôtre. Mais pour que la pensée de Dieu prenne toute la place, il a besoin que la nôtre soit renversée. Souvent, on se rend compte que, comme la Bible dit, ma pensée n'est pas votre pensée. Ça veut dire que je dois penser autrement, ou en tous les cas, je dois renverser mon raisonnement. Et ça pourrait devenir un exercice très compliqué, parce qu'on pourrait dire, j'aurais fait ça, mais je vais faire le contraire, c'est la volonté de Dieu. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, je vous le déconseille, que ça soit bien clair. Ce n'est pas ainsi qu'il faut fonctionner, mais il faut accepter que le Seigneur, à un moment, vienne transformer nos vies, notre existence tout entière. Je donne cette image lorsque je fais une formation baptême avec les candidats au baptême, qui permet un peu de comprendre les choses. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, dit la parole de Dieu, esprit, âme, corps, n'est-ce pas ? Et lorsque l'homme a cédé à la tentation et qu'il a péché, la partie de l'esprit s'est éteinte. Il n'est resté que ses sentiments, ses ressentis et son corps. Et c'est son corps qui a commencé à diriger sa vie. Et bien évidemment, l'homme sans Dieu ne cherche que à satisfaire les désirs de son corps. Tant que le Saint-Esprit ne ranime pas à nouveau et rallume l'esprit dans l'homme, l'homme y marchera toujours par ceux qui attirent la chair, par les sentiments, par ceci, par cela, mais il n'y aura pas la partie spirituelle. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que nous ne pouvons convertir personne. Si quelqu'un ce matin se disait « je vais convertir un tel », mon frère, ma sœur, arrête-toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui transforme les vies. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu, bien évidemment. Tu as le droit et tu as le devoir de témoigner. Mais celui qui convertit les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit et nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit travailler. Parce que nous, parfois, on s'y prend tellement mal qu'on est en train de saccager le travail du Saint-Esprit. Alors parfois, c'est mieux se taire que parler. C'est mieux de prier que de vouloir aller rentrer dans des conflits, voire même dans des grands discours inutiles qui n'apporteront aucun résultat. Cela pour dire ce matin, frères et sœurs, que nous avons besoin d'une transformation profonde. Alors, je ne sais pas quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés cette année. Souvent, on se dit au début d'année qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Amen. Et là, vous vous dites, frère, on est déjà le 2 février. Ces engagements, c'était avant. Mais je crois que le changement et le désir de changer devraient être dans notre vie jour après jour et tous les jours de notre vie. N'est-ce pas? Je ne dois pas attendre le mois de janvier l'année prochaine pour vous voir prendre des résolutions. Si c'est le cas, ça veut dire que vous allez végéter pendant 11 mois. Et je ne suis pas convaincu que l'année prochaine, vous allez vous dire, bon, alors je commence par où? Ouh là là, c'est une montagne. Laisse tomber, on fera ça l'année prochaine. Oui? C'est vrai ou pas? Alors, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour que le Seigneur fasse un travail dans votre cœur? Et là, vous allez dire, oui, amen. Mais lorsque le Seigneur va commencer à faire le travail, vous allez dire, oh là là, oh là, oh là, oh là. Rappelez-vous du Jésus qui rentre dans le temple et voit là les échangeurs de monnaie, et voilà ceux qui vendent des animaux et tout. Qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Il prend et renverse tout. Hein, j'ai pas donné la référence, mais il y a une chose qui m'a interpellé dans ce texte. Hein, nous le trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et il dira au verset 14. Pardon. Au verset 16, il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Mais il va leur dire, vous avez transformé la maison de prière en une caverne de voleurs. Waouh, ça pourrait donner le nom d'un magasin ou d'un... Non ? À quoi ressemble-t-il ton cœur ce matin ? On pourrait se dire, mais c'était un temple. Tu as dit, moi j'ai donné mon cœur au Seigneur pour qu'il soit le temple du Saint-Esprit. Mais peut-être il y a des choses qui se sont installées et qui ont pris de la place. Et ce matin, le Seigneur voudrait renverser ces tables et te dire, tu n'as pas le droit de les faire traverser dans ton cœur. Arrête. Parce que tu es tellement pris par ces choses-là que tu ne vois plus l'essentiel. Tu devrais et tu dois être un homme ou une femme de prière. Non pas de commerce, tu ne peux pas faire du commerce avec Dieu, tu ne peux pas, Dieu n'est pas un vendeur de tapis. La foi ne peut pas être achetée. La bénédiction, tu ne peux pas l'acheter. Peut-être ce matin, je suis en train de vous secouer, mais je suis secoué moi-même en premier. Parce que je me dis, Seigneur, nous ne voulons pas perdre du temps inutilement. J'ai pas envie de passer encore des mois à attendre quelque chose qui peut se passer aujourd'hui. Alors il est question de savoir est-ce que je veux que ça se passe aujourd'hui. Moi oui, après vous, chacun fait pour soi. Je peux pas décider pour vous. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le sens, ce n'est pas la responsabilité que Dieu me donne. Mais je voudrais avec vous ce matin me dire, Seigneur, si jusque-là j'ai marché sur la tête parce que j'ai laissé... le corps, j'ai laissé ma chair diriger ma vie, Seigneur. Je veux que tu me remettes debout comme il faut, esprit à mes corps, Seigneur. Seigneur, je désire, je veux que mon esprit soit uni à ton esprit. Non pas juste, je dis, je suis baptisé du Saint-Esprit parce que je parle en langue. Si tu t'es arrêté là, tu n'as rien compris. D'ailleurs, peux-tu comprendre ce que tu dis en langue ? Non. Mais le but, ce n'est pas même pas que tu comprennes. Le but, c'est que cette relation vienne nourrir quelque chose entre toi et Dieu, au point que tu sois encore plus proche de Dieu, que tu entendes le Seigneur te parler, que tu vois la direction de Dieu dans ta vie et que tu ne fasses rien sans que Dieu t'ait dit « Vas-y !» Dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont allés au combat sans rien demander à Dieu, ils se sont pris une torgnole. « Alors, pasteur, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. » Tu as pris le temps de prier. « Non, mais vous comprenez. » « Non, je ne comprends pas. » La place que Dieu doit avoir dans ton cœur, dans ta vie, ne peut pas être prise par quoi que ce soit d'autre. Et alors, comment accepter et qu'est-ce qui doit changer dans notre vie ? 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Parce qu'on est tous prêts à servir le Seigneur et on se dit, Seigneur, tu nous as remplis de puissance. Amen ? J'entends pas beaucoup d'amen. Hein. Ah, vous dites, oh là là, là, ce matin, ça chauffe. Regardez ce qu'il dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Qu'est-ce que nous renversons ? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Il est important pour nous de comprendre que bien évidemment, si c'est le cas dans votre vie, si vous avez reçu déjà le Saint-Esprit, je voudrais vous encourager à aller plus loin. Mais si vous ne l'avez pas reçu, je vous dirais, ne vous devriez pas donner de répit à vos yeux tant que le Seigneur ne vous l'a pas donné. Et dire, Seigneur, moi maintenant j'ai besoin parce que tout seul, je n'y arrive pas, Seigneur. Tout seul, je m'égare, Seigneur. Tout seul, je me trompe. Tout seul, je prends de mauvaises décisions, Seigneur. S'il te plaît. Et je sais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Et Dieu est fidèle et bon pour nous donner ce que nous avons de besoin. Alors ce texte nous parle finalement de quelque chose qui doit être renversé. La première chose qui nous dit qui doit être renversé, que nous devons renverser, c'est les raisonnements. Mais bien évidemment, on est prêt à renverser les raisonnements des autres, mais ça commence par les nôtres. Est-ce que je suis prêt ce matin à laisser le Seigneur renverser mes raisonnements? Oui, mais pas trop. J'attends de voir, j'attends d'entendre et après on verra. Non, on va tout de suite voir ce que la parole de Dieu nous dit. Les raisonnements, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce qu'elles sont spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Ah, il est beau ce texte. Mais parfois, il est tellement mal compris parce qu'on se cache tout de suite sur cette dernière partie. L'homme spirituel juge de tout. Donc, on se croit le droit de juger tout et tout le monde. Grand silence. On considère que nous, on a reçu la pensée du Seigneur pour instruire, pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais finalement, mon frère, ma sœur, je crois que le premier auditeur du message de Dieu, c'est toi, quand Dieu te parle, et c'est moi quand Dieu me parle. C'est trop facile d'avoir toujours un message pour les autres, mais toi, Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et s'il te l'a dit, est-ce que tu as déjà pris le temps d'examiner si ce n'était pas pour toi avant de vouloir le dire aux autres? Et Dieu a dit que tu dois changer. Hein. C'est facile, ça. Si je vous invitais ce matin à dire à votre voisin qu'il doit changer, ah, ça irait vite, hein? Hein? Tu dois changer. Par contre, quand on nous le dit, c'est un peu plus compliqué. Tu te prends pour qui? Moi, je suis spirituel. Je comprends tout, je juge tout et tu n'as rien à me dire parce que je suis jugé par personne. Mais regardez, il y a quelque chose qui doit être attentif dans notre cœur. Il est question d'abord de bien savoir est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du monde qui nous fait parler, qui nous fait agir, qui nous fait avancer. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas au contraire de la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir de confusion si je prends l'esprit des traditions, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On peut évoquer plein de choses et dire « Oui, mais moi, vous savez, pasteur, je suis de telle tribu, de tel peuple, de telle nation. » Oui, et devant le Seigneur, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de peuple, il y a un seul peuple, le peuple de Dieu. Si tu n'es pas dans le peuple de Dieu, ben tu n'es pas dans le peuple de Dieu. Tu ne peux pas te dire, mais moi je suis un tel, je suis comme ça. Paul dira qu'il n'y a ni Romain, ni Grec, ni Juif, non? C'est vrai ou pas? Alors ce matin, si on devait faire un tour des nationalités qui sont présentes, quelles sont les nationalités qui sont présentes parmi nous? Français, allez, Italien, Espagnol, quoi encore? Réunionnais, ah ben oui hein! Ça veut tout dire, hein? Ça veut tout dire. Il y a nos frères et sœurs gitans, non? Et peut-être qu'encore il y a des Roumains, au fond, amen. Il y a quoi encore comme d'autres nationalités? Après, il y en a, c'est un vrai mélange. Moi, je ne sais pas combien de nationalités on a dans ma famille, mais c'est une vraie salade russe. Une Macédoine de fruits. Mais l'important, frères et sœurs, c'est qu'on mette ça de côté, parce que ça, c'est le raisonnement du monde. Que je sois blanc, que je sois noir, que je sois jaune, devant le Seigneur, ces choses-là n'ont plus de valeur. Même si je peux aimer le pays où je suis né, où je grandis, je peux être très fier de mes couleurs lorsque il y a le match de foot. Reste le fait que devant le Seigneur, frères et sœurs, ces choses-là n'ont plus de valeur. Et je ne peux pas dire au Seigneur, tu sais, Seigneur, chez nous, on fait comme ça, donc tu comprends. Chut. Seigneur, chez nous, nous avons des habitudes, nous avons des traditions, donc tu comprends. Dieu ne comprend pas tes traditions. Et Dieu ne comprend pas que tu sois dans cette réflexion de dire, Seigneur, il est question pour toi de dire encore ce matin, Seigneur, s'il y a encore des restes du monde dans ma vie, viens les balayer, viens les renverser, parce que Seigneur, je ne pourrais pas comprendre ce qui vient de toi si je l'analyse avec la pensée du monde. Je ne pourrais pas, et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas la pensée de Dieu, parce qu'on essaie d'examiner la pensée de Dieu avec la pensée du monde. Et c'est comme si je vous prêchais ce matin en patois calabrais, même pas italien, patois calabrais. Alors là, je peux vous dire à la fin, vous allez dire, pasteur, c'était beau, mais on n'a rien compris. Si vous pouvez mettre les sous-titres, ça ira mieux. Mais le but pour nous, c'est d'entendre et de comprendre. Non ? Est-ce que vous pensez que quand Dieu vous parle, est-ce qu'il veut que vous compreniez ? Donc le message de Dieu est clair. Et de la même manière que le message de Dieu est clair dans notre sens, nous on doit être clair avec Dieu dans notre message, pas de sous-entendu. Pas de moyen d'essayer d'esquiver ou de dire Seigneur, mais... La question, la parole de Dieu nous dit qu'il est question des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Ça veut dire que les réalités... Tu ne dois plus les regarder selon l'œil de ce monde, mais tu dois les regarder selon l'œil de la parole de Dieu et spirituellement te dire dans quel temps je suis. Si je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et aussi autour du monde, on peut se dire le monde part dans une situation qui me fait peur. Je ne sais plus, est-ce qu'il faut encore avoir des enfants ou pas? Est-ce qu'il faut encore penser à la retraite ou pas? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Je voulais te dire, ça, c'est des pensées du monde. Non? Parce que premièrement, les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Et tu devais rendre grâce à Dieu parce qu'il te le donne. Et ce n'est pas toi qui vas prendre, même si tu prends soin de l'enfant, c'est Dieu qui le garde. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on confie nos enfants à Dieu. Hein? Lui nous les a prêtés. Mais ils lui appartiennent. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse dire, Seigneur, est-ce que dans mes réflexions, est-ce qu'il y a des choses que je dois apprendre à voir autrement? Parce que je n'arrive pas à comprendre ta volonté, parce que je regarde d'une manière qui soit charnelle. Parfois, on met même dans notre manière de voir, de fonctionner, une séquence, et on n'accepte pas que Dieu vienne changer nos projets. À tel âge, je ferai ceci, à tel âge, je ferai cela. Moi, j'ai rencontré des personnes qui sont très, comment dire, pas calculateur, c'est pas ça, le mot n'est pas juste. Mais ils ont besoin de rythmer le temps de leur vie en disant, voilà ce que je vais faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je les regarde, je me dis, ouais, c'est bien. Mais Dieu peut changer, non ? Peut changer les choses. Oui, non, mais moi, ça me perturbe. Et moi, je te dis, vive les perturbations qui viennent de Dieu. Laisse Dieu te perturber. Parce que ça va t'apprendre que tout ne dépend pas de toi, mais que tout dépend de Dieu. Et dans ce texte, il est question alors de faire renverser les raisonnements. Et après, il est question de tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Pour renverser les hauteurs de ce monde, il faut suivre et vivre l'exemple de Christ. C'est ce que le texte nous dit. Amen. Vous avez bien lu avec moi? C'est qui le modèle? Qu'est-ce qu'il a fait le modèle? Il s'est dépouillé. Il s'est rendu esclave. Il s'est humilié. Est-ce que c'est la pensée du monde? Pour s'élever dans ce monde, il faut faire l'inverse. Mais pour t'élever spirituellement, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que je dois faire, ce que nous reste à faire. Et ce n'est pas en pensant comme le monde pense et devenir des arrivistes spirituels, ou de ceux qui sautent sur toutes les situations parce qu'on est là en se disant « il faut que j'ai des opportunités », ça c'est d'être de l'opportunisme. Et ce n'est pas spirituel l'opportunisme. Je fais ça parce que je pense à la direction de Dieu, amen, et après je change de cheval parce qu'il y en a un autre qui court plus vite. Non. Lui, il nous a donné un exemple, il s'est dépouillé lui-même en prenant les conditions d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être retrouvé dans la situation d'un homme. Lui, il est venu dans la situation d'un homme. Il a accepté de venir au niveau qui est le nôtre. Donc si Jésus a pu le faire, nous devrions le faire avec plus de facilité, non ? Parce que laisser la place de roi des rois, de seigneur des seigneurs dans le ciel pour venir autant qu'homme, il faut le faire. Je ne suis pas sûr que nous, on aurait accepté. Peut-être vous avez vu ces émissions où le patron prend, s'habille comme un des ouvriers, il vient, il se fait embaucher pour voir comment ça se passe. Et là, il découvre des trucs pas possibles. Il découvre celui qui est sérieux, comme il découvre celui qui ne fait rien. Et on pourrait se dire, mais le Seigneur, est-ce qu'il est venu faire cette émission sur la terre ? Venir voir celui qui se donne de la peine, Jean-Baptiste, waouh ! Et celui qui ne fait rien, et là il se dit, oh là ! Moi je crois que le Seigneur n'avait pas besoin de venir pour ça. S'il est venu, c'est pour nous donner à nous tous un exemple à suivre, et pour nous donner à tous une porte qui est celle de la grâce, qui n'aurait pas pu s'ouvrir autrement que sans le sacrifice de la croix. Amen. Donc, à certains moments, si moi je veux que toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, dans notre monde, tout s'élève contre la connaissance de Dieu, tout le monde voudrait dire que Dieu n'existe pas. Je regardais cette semaine un reportage qui parlait de l'histoire de Noé comme quelque chose qui fait partie de la mythologie. Sauf que dans le même documentaire, il disait « Ce qui est étonnant, c'est que plusieurs religions dans le monde font part de cette situation qui s'est passée. Donc ce n'est plus une histoire, mais c'est une réalité. » Et moi, je crois que tout ce que la parole de Dieu nous dit est une réalité. Et même si aujourd'hui un scientifique ou qui que ce soit s'élève pour me dire la parole de Dieu n'est pas forcément tout la parole de Dieu, mais il y a en partie, autant qu'enfant de Dieu né par l'Esprit, né d'une vie nouvelle, je ne peux que déclarer que la parole de Dieu est la parole de Dieu dans toute son intégralité et que je dois la vivre dans toute son intégralité et que je ne peux enlever une seule virgule de sa parole, même si cette virgule elle ne me plaît pas. Même si cette parole, elle ne me plaît pas parce qu'elle m'amène, moi, à devoir revoir mes projets, mes idées. Peut-être que, je ne sais pas, enfant, vous avez rêvé de quelque chose. Quand on est dans une famille qui n'a pas de grands moyens, qu'est-ce qu'un enfant peut rêver ? Dites-moi. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Enfant, il y avait un voisin qui avait tout. C'est terrible. Il avait tout, celui-là. Son père était assureur et il assurait. Mon père était pasteur, il pastorisait. Et chaque fois que j'allais chez cet enfant et qu'on jouait ensemble, il me sortait tous les jeux qu'il avait des fois. Et parmi les trucs qui m'avaient le plus marqué, parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas, c'était un petit robot comme ça. Faisait 3 cm. Vous avez une petite corde, vous mettiez la corde et il marchait. Nous, on jouait avec des bouts de bois, des élastiques, des clous, des vis. On faisait nos trucs nous-mêmes, on se débrouillait comme on pouvait. Quand on avait une voiture, on était 3 frères, je ne vous dis pas, c'était la guerre. C'était toujours le dernier qui l'a remporté parce qu'il appelait maman. Les années sont passées et le Seigneur a fait grâce, j'ai pu rencontrer Elisabeth. Dieu m'a fait grâce, mais Dieu l'a béni aussi. C'est vrai ? Amen. Il faut être équilibré dans la vie. Hein. C'est une grâce mutuelle, c'est une bénédiction mutuelle. Et le Seigneur nous a permis, dans le parcours qui est le nôtre, de connaître un moment où on ne manquait plus de rien. Un jour, on est allé au supermarché avec Elisabeth, on a fait le tour, on s'est dit, mais on n'a plus besoin de rien, on a tout. Et là, je me suis acheté le petit robot. Ça vous semble étonnant, mais regardez parfois dans le temps, on revient, et encore aujourd'hui, c'est présenté, on revient à des choses qu'on aurait souhaité quand on était enfant. On retombe en enfance, on a besoin de se dire, finalement, j'ai pu atteindre cet objectif. Alors, je l'ai toujours, hein. On n'y touche pas. C'est mon robot. Mais juste vous dire ça, des fois, on peut grandir en ayant une forme de frustration quelque part, et se dire, tant que je ne l'ai pas atteint, je n'ai pas réussi. Mais lorsqu'après, on connaît le Seigneur, on rencontre le Seigneur, toutes ces choses-là n'ont plus la même valeur. Parce que le jour où on a dû tout quitter pour partir pour le Seigneur, on l'a fait avec joie dans le cœur, en disant, Seigneur, c'est toi qu'on sert. Et c'est toi qu'on veut servir. C'est pas, on ne sert pas un appel, on sert Dieu. Parce que certains servent leur appel. Dieu m'a appelé à ceci et je sers mon appel. Non, tu sers Dieu. Et ton appel est au service de Dieu. Autrement, tu es dans une pensée qui n'est pas biblique. Et dans ce texte, il est question finalement d'apprendre tout au long de notre vie à nous dépouiller de tout ce qui n'a pas forcément de la valeur spirituelle. Oui, mes frères, on ne peut pas vivre dans la pauvreté. Pourquoi on ne peut pas? Qui a dit qu'on ne peut pas? Il arrive par moments que nous manquons de bien des choses. Est-ce que Dieu pour autant nous a abandonnés? Parce que c'est dans ces moments-là que je vis une autre réalité. La réalité que nous vivons dans ces moments-là, c'est la réalité où Dieu intervient et nous donne ce que nous avons de besoin et nous fera manquer de rien, dit la parole de Dieu. Mais dans la pensée du monde, ce n'est pas ainsi. On a besoin finalement que le Seigneur change notre raisonnement et que nous apprenions nous-mêmes à poser notre vie en disant, Seigneur, je veux, Seigneur, m'humilier devant toi. C'est quoi s'humilier devant Dieu? Le but, ce n'est pas de montrer aux autres qu'on s'humilie. On est humble, mais fier de l'être. La véritable humilité devant le Seigneur, c'est de mettre tout à zéro et de mettre tout à plat et en disant, Seigneur, la première place dans ma vie, c'est toi. Et si un jour, juste un instant, j'ai réfléchi en me disant, je vais faire ceci, Seigneur, je te demande pardon, je m'humilie parce que je n'aurais pas dû penser comme ça. À la première place. Vous savez comment combattre vos pensées? Ne les laissez pas prendre de place. Ah, vous dites, pasteur, mais vous pensez que moi, je ne me bats pas aussi avec mes pensées? Laissez une pensée commencer à faire chemin dans votre tête. Après, pour venir la sortir, c'est compliqué. Hein. Par contre, si vous prenez une position tout de suite, vous ne laissez pas, excusez-moi, le verre commencer à tarauder la pomme. Et la question finalement de dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que même pendant un instant, j'ai laissé cette pensée commencer à s'introduire dans ma tête. Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, purifie mon cœur, purifie mes pensées, renverse mes raisonnements. Alors, il y a une troisième chose qui est dite sans être dit, parce qu'il est question finalement dans ce texte que nous avons lu, bien aimé, il est question pour nous finalement de dire « et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Ça veut dire qu'il y a un troisième élément dans lequel nous avons demandé au Seigneur de faire un renversement. C'est la question qu'on a tous un peu le problème. C'est celle d'être soumis. Heureusement, ça ne vous concerne pas. Ce dernier point est le plus difficile car malgré les apparences, certains en réalité font. Alors j'en ai trouvé trois de catégories. Je ne pointe le doigt sur personne, je me mets moi aussi dans la liste en regardant, en disant Seigneur, les premiers c'est les dorons. Attendre que cela se passe sans montrer signe de résistance. Et en peu de paroles, c'est « cause toujours, Seigneur. Je fais le dorant, j'attends que ça se passe. J'entends ta parole, mais Seigneur, je ne me soumets pas vraiment, je fais semblant, je reste là, je reste immobile, j'attends que ça se passe. Et après, Seigneur, on avance. » Le deuxième, c'est les « hors la loi ». Ils ont un code de la loi qui se résume à un seul article, le pas de loi. Ce n'est pas un pas de danse, c'est un pas de loi. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de loi. Vous en dites, j'ai discuté avec quelqu'un cette semaine, il me disait, moi, je n'ai jamais supporté les règles. Jamais. Il dit, si je la règle, je ne la comprends pas, je ne l'accepte pas. Il s'est fait virer du service militaire parce qu'il ne respectait pas les règles. Et il a vécu plein de problèmes dans sa vie parce qu'il ne respectait pas la règle. Et il est resté tel quel. C'est terrible, non ? Troisième catégorie, les « je sais ». Ils définissent les lois qu'ils veulent, qu'ils aimeraient imposer à tous. Laissez-moi. C'est moi qui sais. Je sais. Je connais. J'entends sourire et j'entends grincer des dents. On sait. Moi, je me dis qu'on a encore beaucoup à apprendre. Non ? Parce que si ces réalités sont encore en nous, même un peu, c'est qu'on a besoin que le Seigneur renverse les choses. Non ? Romains chapitre 8, versets 5 à 8. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont des tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Vous entendez bien ? Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'y a-t-il chez toi, la vie et la paix ou la mort ? Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis, sans bavure. Ah non, là, c'est... Non ? Alors, j'ai trouvé un dernier texte, je vous le partage rapidement, parce que là, déjà, je vous ai donné de la matière à réfléchir. Philippiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Et j'ai appelé cette partie-là la preuve du 7. Vous savez, quand on faisait des devoirs à l'école, surtout quand c'était des maths, il fallait prouver, non ? Que le résultat était le bon, il y avait des fois... Non ? Ça vous est arrivé, ça ? Hein ? Vous deviez donner le résultat, expliquer comment vous êtes arrivé à ce résultat. Et si vous le preniez d'une autre manière, comment ça vous arrivait au même résultat ? Alors regardez, là dans le texte de Philippiens 4, 8 à 9, on a la preuve du 7. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, on pouvait ce matin se dire, est-ce que tout ce à quoi je pense, est-ce que tout ce qui est vrai, c'est ce que je pense ? Est-ce que ma pensée, elle est fixée sur tout ce qui est vrai, sans me laisser détourner vers ce qui n'est pas vrai ? Est-ce que ma pensée se tourne vers tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange ? Si on remplit les 7 points, c'est magnifique. Le résultat, on va le voir. Mais on pourrait se dire par nous-mêmes, allez. Ouais, au moins même, je peux me dire oui. Mais le problème, ce n'est pas ce que toi, tu dis de toi. C'est ce que les autres vont dire de toi. Et la manière où les autres le vivent. Parce que l'apôtre Paul dira, finalement, tout ce que vous avez appris et entendu et vu en moi, pratiquez-le. Donc, penser, c'est bien, mais il faut aussi apprendre. La première chose à apprendre, c'est que nous devons accepter d'apprendre avant de vouloir enseigner les autres. C'est juste ? Si je veux entendre, je dois accepter d'entendre avant de vouloir parler aux autres. Parfois, je suis étonné de quelques personnes qui viennent de se convertir, qui viennent lire la parole de Dieu, et il me dit, frère, voilà ce que la parole de Dieu vous dit. Très bien, moi je suis prêt toujours à entendre. Sauf que quand je lui montre que c'est, ah non frère, moi j'ai reçu comme ça, c'est comme ça. Écoute, le Seigneur te révélera. Hein. Tu verras toi-même. Hein. Non ? On peut être très rapide dans notre manière de vouloir enseigner les autres. Et il est question de voir, accepter de vouloir observer avant de vouloir montrer aux autres. C'est toute une école. Et après, question mettre en pratique. Finalement, pratiquer en sachant encore apprendre des erreurs. Parce qu'on en fera encore des erreurs. Qui s'est trompé cette semaine ? Osez, j'ose. Qui s'est trompé cette semaine ? Heureusement, il y en a qui ne se trompent jamais. Gloire à Dieu ! C'est bien, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on a appris nos erreurs ? Parce que je ne peux apprendre mes erreurs que si je prends cette erreur et je la place sur la liste des 7. Finalement, je comprends où j'ai commis l'erreur. Et là où j'ai commis l'erreur, ça veut dire que j'ai une faille. Et là où j'ai la faille, je dois dire, Seigneur, viens m'aider. Parce que peut-être mes pensées encore, elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas justes, elles ne sont pas honorables. Seigneur, viens changer ce qui ne va pas dans ma vie. Parce qu'avant de vouloir dire aux autres quoi faire, je dois le vivre moi-même. Et le résultat, quand la preuve des 7 marche, il dit le texte, le Dieu de paix sera avec vous. Si vous voulez le Dieu de paix dans votre vie, si vous voulez que le Seigneur vous accorde la grâce, la miséricorde, la tranquillité dans votre foyer, frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire autrement que d'avoir la paix avec Dieu. Parce que Dieu ne me donnera pas quelque chose qui n'est pas en relation directe et vraie entre lui et moi. Je ne peux pas me sentir en paix sur ma chaise si j'ai un problème avec un frère ou avec une sœur. C'est impensable. Parce que si j'ai un problème avec un frère, avec une sœur, le Seigneur me dit, tu dois régler ton problème. Tu ne peux pas rester comme ça. Oui, mais il est petit. Même pour le petit. Même s'il a 3 ans, tu vas, et si tu t'es planté, tu t'excuses. Ah, mais les enfants oublient vite. Croyez-moi. Moi, il y a des choses qui sont marquées là-dedans, je ne suis pas prêt de les oublier. Un enfant se rappelle bien plus que vous pouvez l'imaginer. Un enfant entend bien plus que vous pouvez le penser. Et un enfant comprend bien plus vite que parfois on peut le comprendre nous. Mais ce matin, il est question pour moi, pour vous, pour nous tous, de dire, Seigneur, s'il y a encore quelque chose à renverser dans ma vie, je veux que tu le fasses. Consciemment, Seigneur, je te dis, renverse ce qui n'a pas lieu d'être. Si c'est dans mes pensées, Seigneur, ok. Parce qu'une fois que ça s'est fait dans notre cœur, dans notre vie, c'est là que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour renverser le reste à l'extérieur. Comment l'Église peut renverser ce qui se passe dehors si à l'intérieur de l'Église, ces choses existent encore ? Nous sommes mal placés pour donner un exemple, nous sommes mal placés pour aller donner un enseignement. Et l'apôtre Paul a dit, vous l'avez lu avec moi, ce que vous avez pris, entendu et vu. Donc à quelque part, le monde doit pouvoir apprendre, entendre et voir. Parce que nous le pratiquions. Parce que nous le mettons en œuvre. Parce que nous le vivons véritablement. En 30 secondes. Est-ce que ce matin, il y a quelque chose qui t'a interpellé ? C'est entre toi et Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne peux rien pour toi. J'ai déjà assez à faire avec moi-même. Par contre, si tu considères qu'il y a quelque chose, ce matin, tu peux dire au Saint-Esprit, Seigneur, viens changer ma vie. Et si c'est le cas, je t'invite à incliner ta tête. Et ensemble, nous allons dire, Seigneur, viens, fais-nous vivre, Seigneur, ces transformations dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas être encore de ces hommes mi-spirituels, mi-charnels. Seigneur, tu ne veux pas de demi-mesure, tu veux que nous soyons totalement à toi, complètement à toi, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, lorsque nos cœurs s'approchent de ta parole, forcément ta parole, elle nous remet en question parce que c'est un miroir véritable de notre âme et de notre esprit. Elle nous montre où nous en sommes, Seigneur. Et Seigneur, si nos pensées ne sont pas pures, si nos actes ne sont pas purs, si nos mobiles ne sont pas purs, Seigneur, toi, tu nous le montres non pas parce que tu veux nous accuser, non pas parce que tu veux nous accabler, mais parce que tu veux nous sauver. Et encore ce matin, Seigneur, nous disons merci pour cette œuvre de salut que tu accomplis. Mais Seigneur, merci aussi de faire de nous, Seigneur, ce peuple qui t'honore non pas avec sa bouche, mais avec son cœur, avec son âme et aussi avec son corps. Seigneur, nous désirons encore ce matin te dire, Seigneur, prends toute la place de nos vies. prends toute la place dans notre existence, prends toute la place dans notre foyer, Seigneur, dans le couple. Prends toute la place, Seigneur, avec nos enfants. Prends toute la place, Seigneur, dans ton Église, Seigneur. Seigneur, s'il y a des raisonnements parmi nous qui ne te conviennent pas, Seigneur, viens les renverser, Seigneur. Et que personne ne puisse se permettre de les ramener d'un côté à l'autre de l'Église, Seigneur. Mais que chacun, Seigneur, puisse véritablement devenir cet homme, cette femme spirituelle qui peut juger toutes choses parce qu'il ne juge pas selon sa pensée, mais selon ta pensée. Seigneur, ce n'est pas avec notre maître de mesure que nous devons mesurer, mais c'est avec le tien. Et ton maître de mesure, c'est la parole. Alors Seigneur, merci. Merci de nous aider à la comprendre, à la saisir et à la vivre. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.